Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe, pour vous accueillir sur la route inconnue, tandis que le printemps des poètes bat son plein, eh bien j'ai décidé de mettre cap au sud. Nous allons à Saint-Vincent, dans le département de la Haute-Garonne. Un poète nous y attend, vous devez bien vous en douter. Ce poète s'appelle Georges Catalot. Vous l'avez entendu, il y a 15 jours, nous parlait de sa collaboration à la revue de poésie Décharge, notre partenaire, car Georges Catalot est aussi un revuiste passionné, doublé d'un critique. Je vous renvoie d'ailleurs, entre autres, au site texture.fr de notre ami Michel Baglin. Vous pourrez parcourir les nombreuses notes de lecture de Georges Catalot. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le critique que j'invite, c'est le poète. Un poète modeste qui n'aime pas parler de lui. Eh bien, aujourd'hui, il va falloir qu'il s'exécute. Après l'entretien que nous allons avoir, eh bien, je me permettrai de vous lire des poèmes de Georges Catalot, une lecture apéritive qui ne doit pas vous empêcher d'acheter les très nombreux livres du poète. Bien au contraire, il faut acheter des livres et contribuer ainsi à la survie de l'édition poétique, toujours menacée d'extinction. Achetez des livres et écoutez votre radio, Radio Rancière, qui offre à la poésie vivante 2 heures d'expression tous les mois. Voilà, à la fin de cette émission, je vous le rappelle, vous pourrez entendre les chroniques de Jean Antonini, Jacques Morin et Jean-Claude Touzeil. Georges Catalot, bonjour.
Bonjour.
Je le dis à l'instant, vous n'aimez pas parler de votre poésie, vous préférez parler de celle des autres. Pourquoi avez-vous du mal à parler de vous-même? Ce sera ma première question.
Oui, ben, sûrement que c'est dans ma nature profonde où se mélange timidité réelle, tendance à l'effacement, doute systématique. Bon, je pense que ça va pas s'arranger avec l'âge. Et puis bon, il y a tellement d'autres personnes qui mériteraient qu'on parle d'eux. Bon, c'est ce que je me dis. Voilà.
Oui. Deuxième question, elle est rituelle. Tous ceux qui ont fait étape sur la route inconnue y ont répondu. Comment êtes-vous devenu poète? À quel âge vous avez fait cette rencontre, la rencontre de votre vie?
Ah oui, la rencontre de ma vie, oui, c'est au collège et au lycée de Gaillac, dans le Tarn. Voilà, avec la découverte de livres dans ce qui n'était pas encore un CDI, puis c'était une bibliothèque d'établissement. Et là, il y avait une responsable, je peux citer son nom, Laurent Cizerne, qui me permettait d'emprunter des dizaines et des dizaines de livres autant que je voulais, ce qui était illégal, mais j'avais le droit. Et donc, j'ai emprunté des livres de poésie. Bon, ça avait été des livres classiques. Bon, il y avait Hugo, les romantiques, puis Baudelaire, Verlaine, Ronsard, etc., Rimbaud, et puis ça a été Apollinaire et Prévert. Voilà. Et donc pour le boulimique de lecture que j'étais déjà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et puis après, il y a eu une rencontre à ces années-là, c'était en 1964, d'un poète qu'on ferait bien de relire, qui s'appelle Gaston Puel, poète qui vivait à Veille, un petit village tarnais, et il venait d'obtenir le prix Max Jacob à Paris. Alors évidemment, gonflé comme on peut l'être à cet âge-là, j'avais eu le culot de lui écrire, et il m'avait répondu une lettre admirable. Bon, et puis c'était le début d'une grande amitié de plus de 50 ans. Voilà. Il est décédé il y a 3 ans de ça, voilà.
Ouais. Vous habitez une terre où la poésie a vraiment droit de cité. Il y a beaucoup d'excellents, de grands poètes dans cette région de France.
Oui, il y a ça aussi, mais bon, il n'y a pas vraiment d'unité. C'est le hasard sûrement qui a dû faire ça. Et moi, je ne vois pas d'autres explications.
Ouais. Alors, vous avez grandi dans la campagne tarnaise et depuis beaucoup vécu à l'écart des grandes villes. Est-ce que la nature est indispensable à l'homme Catalot autant qu'au poète? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir grandi à la campagne, ça vous a ouvert?
Absolument, absolument. C'est vital, indispensable. Voilà, je vis dans cette terre lauragaise qui est à cheval sur plusieurs départements et qui est aussi surnommée le pays de Cocagne ou la petite Toscane, ce qui est un peu prétentieux suite au remembrement. Mais bon, maintenant, on a replanté des haies brise-vent et bon, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore passé 4 à 5 heures de mon temps donc, à tailler des arbres, à entretenir des brise-vents, à jardiner. Voilà. Donc c'est absolument vital, indispensable.
Quel enfant étiez-vous? Est-ce que vous étiez un enfant, vous l'avez dit, vous étiez un boulimique de lecture, mais
oui.
Est-ce que vous étiez aussi un enfant à galoper
non,
dans la campagne?
Non, assez peu.
Assez peu.
Bon, j'ai évidemment vécu la campagne, mais bon, chez moi, il n'y avait pas de livre, ni rien, d'où cette boulimie de lecture qui est venue dans des années collège et des années lycée.
Ouais. Alors, il n'est pas rare que les adolescents écrivent des poèmes, mais souvent, hein, quand vient l'âge de raison, bah, le poète en herbe rentre sa griffe et s'en est fini de sa maladie honteuse. Seuls quelques-uns persistent et signent et deviennent des poètes. Quand avez-vous eu le sentiment que vous étiez devenu un poète?
Alors,
Ah.
vaste question là. Oui, non, c'était un double sentiment qui existe encore, hein, à la fois de doute et de révolte. Bon, et puis les choses avec l'âge encore se sont aggravées, l'indignation face aux injustices, l'insatisfaction quasi permanente de ne pas faire assez pour les uns pour les autres au sein d'associations. Hein. Voilà, et puis bon, la révolte aussi face aux soi-disant responsables politiques, hélas, qui souvent font n'importe quoi, sans parler des responsables. On parlait là, juste à l'instant, des responsables du monde agricole ou du monde rural, qui se rendent compte, après 30 ans de démembrement, que la campagne avait besoin de ces brise-vents, surtout dans nos terres très ventées du Lauragais. Et voilà, alors maintenant, on en est réduit à replanter, à refaire, on espère que les générations qui suivent ne vont pas commettre les erreurs de ceux qui nous ont précédés.
Ouais.
Voilà.
Alors, est-ce que vous vous souvenez du premier texte qui vous a donné satisfaction?
Non, pas vraiment. Bon, c'était des poèmes, bien sûr, dans les années collège. Oui, et puis si, quand les premières fois où l'on est publié en revue,
ouais.
Et ben en plus c'était pas n'importe où, c'était dans la Tour de Feu et de Pierre Bouju, revue internationaliste de création poétique. Ah, c'était extraordinaire, puisque bon, on était avec Roland Nadeau, que je salue au passage. On est les deux derniers survivants de cette aventure-là, qui avait rassemblé des gens de tous bords, puisqu'il y avait des gens de toutes religions, et plus des athées, des agnostiques, enfin, et des jeunes. Vraiment, c'était une tour de Babel où chacun avait sa voix. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Ouais. Vous avez été, ça a été un bonheur que d'être accueilli par
Oui.
ces gens-là. Vous aviez quel âge quand vous avez publié votre premier poème à
Oh
la Tour de
ben,
Feu?
je ne sais plus.
Ouais.
Je sais pas, 20, 25,
Ouais.
par là, à peu près.
Ouais. Alors donc, vous avez publié vos premiers poèmes à la Tour de Feu, mais aussi à l'enseigne du Haut Pays, du merveilleux Pierre Gabriel, qui reste un de mes poètes préférés, je vous le glisse au passage. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre avec Pierre Gabriel?
Alors là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des souvenirs magiques qui me font dire, avec le recul, que j'ai eu toute ma vie une chance extraordinaire, une chance inouïe. Et ça s'est trouvé justement dans les années 75-80, où à la demande de Gaston Puel, il m'a dit: oui, mais vous avez des poèmes qui tiennent la route, présentez-les, préposez-les pour le prix Voronka. C'est un prix décerné de façon anonyme, il y avait des centaines de manuscrits anonymés qui arrivaient, et le jury décernait ce prix après maintes délibérations. Et lorsque le lauréat a été choisi, il découvrait le numéro codé et on découvrait le lauréat. Et là, bon, il a fallu que je sorte de ma tanière pour aller à Rodez, lors des célèbres rencontres de poésie dans les années 70-90, qui attiraient tous les ans, lors des week-ends de Pentecôte, des centaines de poètes de toute la francophonie, quoi. Et là, là j'ai eu une chance inouïe, puisque j'y ai croisé des tas de gens, certains ont disparu, mais c'était des exemples, comme Robert Sabatier, Jean Rousselot, Luc de Cône, Gaston Puel, bien sûr, Yves Heurté, Pierre Gabriel, voilà, et d'autres qui vivent toujours, comme Frédéric Jacques Temple, Pierre Desnaud, etc. D'autres qui, voilà, mais ce sont des gens qui m'ont marqué, et ben, je ne suis pas le seul, je pense, à vie, lors de ces rencontres-là, qui duraient 3-4 jours à Rodez. Et voilà, c'était des poètes humanistes, respectueux, tolérants, enfin, c'est des gens très cultivés, passionnés, curieux de tout, de fortes personnalités, bien sûr. Voilà. Et hormis ces gens-là, j'ai rencontré, bien sûr, des gens de ma génération. Bon, on pourrait citer Christian Da Silva, Michel Baglin, Jean-Pierre Siméon, Gérard Beaucholier, Josette Segura, Éric Dazan, etc., etc. Voilà. Et donc, ce sont des amitiés qui se sont nouées et qui durent encore, fort heureusement.
Oui.
Oui.
Alors, vous avez derrière vous une œuvre conséquente, hein. J'ai dénombré vous me direz si je me
Ah
suis
oui.
trompé, 41 recueils,
Oui, c'est
41
possible.
recueils publiés chez de nombreux éditeurs, dont Gros Texte, Le Dé Bleu, Texture, Froissart, L'Arbre à Parole, les carnets du dessert de lune et j'en passe. J'en déduis que l'acte d'écrire est quand même plus ou moins quotidien chez vous.
Ben là, non, justement, j'écris relativement peu, de moins en moins. Voilà, et bon, ça se fait au coup par coup, et c'est parfois même des certains amis éditeurs qui me tannent pour dire ah oui, ben tu pourrais rassembler, j'ai lu dans des revues des textes, est-ce que c'est inédit? Bon, voilà, ça se fait un peu au coup par coup comme ça. Après, bon, j'essaie de composer des ensembles plus ou moins thématiques que où il y ait une colonne vertébrale pour faire tenir l'ensemble. Voilà, ça se passe, c'est pas un calcul ni une posture, hein, voilà.
Alors, comment vous écrivez? Je veux dire, vous, est-ce que vous avez quand même fait partie de ces auteurs qui ont un carnet, quoi, pour noter des choses? Si vous vous promenez, si vous étiez en train de tailler des arbres tout à l'heure, voilà, s'il y a une...
Ah oui, ben voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais bon, je n'écris pas sur le moment. Sûrement, il y a des choses qui se passent. Bon, là, tout à l'heure, j'ai découvert, c'était vraiment inédit. Bon, je veux le dire, et j'étais vraiment tout heureux quand je suis revenu. Je dis à mon épouse, j'ai découvert dans une haie où je taillais avant la grande montée des sèves, certains fruitiers, une couleuvre qui mesurait plus d'1,50 m, et ça faisait au moins 10 ans, 15 ans que je n'avais pas vu. Et les premières coccinelles également, bon, alors, et les premières abeilles qui sont menacées, il faut le savoir. Bon, et ça, c'est quelque chose qui va mûrir, et puis un beau matin, il va y avoir quelque chose qui va écrire. Mais je suis souvent bloqué parce que je lis tellement, tellement d'excellentes choses, bon, de moins bonnes aussi, certes, mais les excellentes choses sur différents sujets, que je me dis, c'est pas possible, on peut essayer de faire ce qu'on veut, je n'arriverai pas à passer la barre est trop haute. Voilà, c'est souvent ça qui me fait. Mais après, bon, j'essaie d'avoir une écriture de plus en plus ramassée, de plus en plus elliptique, ce qui est difficile, parce que contrairement à ce que croient certains, plus une forme est une forme brève, hein,
Oui.
voire aphoristique, et plus elle demande une exigence à tout point de vue. Alors que le roman ou le récit, c'est d'un autre, ou même la nouvelle, bon, c'est d'autres codes d'écriture.
Oui.
Voilà.
Quelles sont vos sources d'inspiration? Ah, moi,
Oui.
j'ai relevé dans votre bibliographie de nombreux titres où le mot quotidien
Eh bien,
apparaît. Est-ce que...
oui, alors ça c'est une aventure qui nous a mené ou qui nous a mené toutes sortes de commentaires de la part de certains beaux penseurs. Passons. Bon, ça se passait dans les années 80-90 où on va dire le terrorisme de tel quel et des formalistes et tout ça étaient délirants. Hein. Et c'est dans ces années-là, on a eu la chance de croiser un monsieur que j'ai le plaisir de citer, il s'appelait Georges Mounem. C'était un remarquable linguiste connu dans le monde entier, grand spécialiste de René Char et passionné de poésie, au point qu'il avait mis en lumière des poètes qu'il était allé tirer de l'ombre, aussi différents que Gaston Puel et Pierre Delafaye, que Jean Malrieux et Gabriel Cousin, et que Georges Godeau ou Franck Venaille, qui est un des derniers vivants de ce groupe-là, qu'on a appelé le groupe Mounem. Et donc, après, certains ont appelé ça la poésie du quotidien, puisqu'il y a eu des épigones, mais Georges Mounem préférait parler de poète du vécu, ou poète de l'émotion, ou la poésie du lyrisme ordinaire également. C'était une expression qui revenait souvent. Bon, après, il y a eu des poètes qui ont suivi, se sont inspirés plus ou moins de cette tendance. Bon, là, j'ai le plaisir de citer des amis comme François de Cornière, Jean-Claude Martin, bon, Pierre Autin-Grenier, Michel Merlin, Michel Baglin, bien sûr, Alain Malherbe, bon, et d'autres que j'oublie, je m'en
Voilà,
excuse.
c'est un peu votre famille d'auteurs. Moi, je vous mettrais là-dedans, dans
Oui.
ces auteurs-là, non?
Oui,
Qui
pourquoi pas?
On n'est pas plus mal ici qu'ailleurs.
On n'est pas plus mal ici qu'ailleurs, oui, quand chante quelqu'un. Oui, c'était Baglin, pardon, Brassens, dans Heureux qui comme Ulysse, la chanson quand on est mieux ici qu'ailleurs. Oui.
Alors, pour autant, vous avez aussi un regard critique, hein,
Oui.
sur notre société aussi.
Ah
Est-ce
ben
que vous
oui.
souffrez en ce moment?
souffrait de certaines choses qui sont inadmissibles. Bon, on ne va pas parler d'une sinistre actualité où des gens se permettent de dire tout et n'importe quoi en quelques heures d'intervalle avec le même aplomb. Bon, par rapport à la jeunesse, bon, j'ai des petits-enfants qui sont adolescents et lorsqu'ils se posent certaines questions, alors là vraiment c'est le grand embarras. Parce que comment on ne peut pas justifier l'injustifiable dans des attitudes de responsables, alors que ce serait si simple d'être naturel, quoi, comme nous ont appris à l'être certains poètes que j'ai eu le plaisir de citer tout à l'heure.
Ouais. Vous avez parlé
qui était d'une rectitude morale que je souligne fréquemment, qui étaient des exemples, surtout pas des modèles. Certains d'entre eux, d'ailleurs, m'engueulaient fréquemment. Genre, ah oui, vous êtes des modèles. Ouh là là, non, malheur. Non, non. Des exemples, oui, pourquoi pas. Voilà. Où il y a un accord entre la personne dans sa vie de tous les jours, ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit. Il faut qu'il y ait un accord, quelque chose qui aille sur le même registre.
Alors, j'ai remarqué une chose, vous citez beaucoup les autres, hein, là, une fois de plus, hein. Bon, ça devait être une émission sur vous, puis finalement, je m'aperçois qu'on parle plus des autres que de vous. Et, mais c'est de votre faute.
C'est très bien.
c'est votre faute, parce que j'ai remarqué, par exemple, que vos poèmes sont souvent dédiés à d'autres poètes, et même, dans certains recueils, c'est systématique, chaque poème est dédié à un ami.
Oui, alors là, oui, pour ces deux livres en particulier, dont un qui est paru chez l'ami Jean Le Boël aux éditions Henri, qui sont remarquables, là, c'était pas à la demande, mais c'était des personnes qui m'ont dit « Oui, mais tu pourrais rassembler, ce sont des textes qui avaient déjà paru en revue. » Là aussi, il faut saluer le travail que font, remarquable que font les revuistes. Et bon, on peut demander à tous les poètes en herbe de s'abonner ou de découvrir la richesse, malgré tout, des revues papier qui auraient tendance à être poussées dans l'ombre par les revues écrans, mais elles font un travail extraordinaire et c'est un très bon tremplin pour aller vers autre chose. Voilà. Et donc, comme c'était là aussi des poèmes parfois éparpillés, ou tout ça, bon, c'est suite à des rencontres, à des découvertes que ces choses se font. Hein. Bon, mais c'est toujours dans un esprit qui ne me lâchera, je pense, jamais. C'est un esprit d'échange, de fraternité, de sens du partage, de passion commune avec des personnes où on sent que le courant passe. Et bon, ça c'est inexpliqué. Voilà. Et c'est à partir d'un thème commun, d'un sujet de discussion que l'on a eu. Bon, ça peut être voilà, ça peut venir de là.
Pour finir, une question très anecdotique. Le rugby.
Ah, le rugby.
Ben oui, parce qu'il faut. Vous êtes aussi l'auteur des Brèves de Valis, oh oui, édité, mais... réédité.
Oui, qui sont comme leur auteur épuisés, les trois tomes. D'ailleurs, l'éditeur, bon, elles ont été épuisées. Oui, c'est une aventure en un mot, comment vous dire. C'était en 2006 ou 2007, un jeune journaliste, Laurent Gallès, qui est venu me voir pour des petits livres de poésie dont il avait entendu parler. Bon, elle était venue chez moi, et donc c'était découvert une passion commune, et surtout une manie commune, c'est quand on allait voir des matchs de rugby, lui pour son travail, moi pour le plaisir, comme ça, elle est en terre tarnaise, terre rugbystique, ouais. Que j'ai découvert dès l'âge de 6-7 ans, voilà, et on relevait, on était amoureux des mots, et tout ça, on avait relevé des tas de bourdes, un peu à la manière des brèves de comptoir de Gouriot, et voilà, et alors on a dit, bon mais attends, on va faire ça, et alors comme ça n'avait jamais été fait, bon, on l'a proposé à un éditeur qui d'emblée l'a accepté. On a trouvé un préfacier de renom qui est là aussi un autodidacte extraordinaire que j'ai le plaisir de saluer, qui s'appelle Daniel Herrero,
Cure,
légendaire. Voilà. Et donc, bon, c'est une anecdote, mais ça n'a que peu de choses à voir avec la poésie. Mais bon, c'est une aventure humaine là aussi. Et puis bon, là, on se rend compte que ce genre de choses sens de compilation marche mieux que la poésie au point de vue commercial, puisque 4 ans après, au moment de la deuxième Coupe du Monde, c'est l'éditeur qui est venu faire un toc-toc chez nous pour nous dire est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième mi-temps, voilà. Et puis rebelote, et puis il y a eu une troisième mi-temps l'an dernier. Et bon, les choses... Mais il n'y aura pas de quatrième mi-temps.
Non, mais la troisième, c'est la meilleure.
Voilà, oui, c'est la meilleure, tout à fait. Mais à part que l'éditeur parlerait de réunir les 3 tomes épuisés en un pack, sans jeu de mots, en un pack rassemblant les 3 préfaciers et l'ensemble des brèves entendues tout autour des terrains, dans les vestiaires, dans les tribunes, ce qui constitue un monde un petit peu à part, bien distancé maintenant, où le rugby professionnel a mis un petit peu à l'écart le rugby des villages, qui a mené là aussi une convivialité, une fraternité que l'on ne trouve rarement dans d'autres sports. Hein. Voilà.
Georges, un grand merci à vous pour avoir répondu à mes questions.
Merci à Radio Grand Ciel. Et bonne lecture pour la suite.
Eh ben, vous avez raison de le dire, parce que on va d'abord écouter un petit blues de Derrière les fagots avant d'en revenir à vos poèmes. Merci beaucoup.
Merci encore.
Voilà, c'était Memphis Slim, Paris on Rolls. Et je vous propose à présent de poursuivre cette émission en vous lisant des poèmes de l'homme auquel nous venons de parler, auquel je viens de parler. Voilà, c'était Memphis Slim, Paris on Rolls. Et je vous propose de reprendre le cours de cette émission en vous lisant des poèmes de Georges Catalot, l'homme auquel je viens de parler. Et qui nous a parlé avec son si bel accent du Sud. Je commencerai par Les quotidiennes pour dire, publié aux éditions La Porte en 2007. Si comme on peut le craindre, les mots se télescopent et s'annulent, comment ouvrir leur bouche muette? Comment dire aujourd'hui un seul moment de grâce qui ne reviendra plus? Celui qui goûte les mots règne sans partage sur un royaume invisible. Il savoure, il déguste. S'il hésite sur les uns, Il retient fermement les autres, il met en bouche, il propose de savants coupages en espérant la bonne cuvée. Dans le déluge des mots, quelques-uns surnageront, frêles rescapés du naufrage, traces fragiles du présent, ils seront là pour rappeler ce que tout le monde a perdu et que personne n'attendait. Sur toutes les dunes des livres, plantez des hoyas de mots, quelques haïkus inédits aux profondes racines, quelques formules qui germeront juste pour préserver encore des îlots de désirs et de rêves. Avec leurs mots râpés, poètes et prophètes se transforment soudain en experts des nuages, en négociateurs de tempêtes, en médiateurs de crépuscules. Ils disent ce qu'ils voulaient dire. Voulez-vous répéter, car je n'ai pas tout saisi des mots qui se modulaient derrière les mots, je n'ai pas su les entendre, car ils étaient les mots d'un silence plus fort que le silence. Et si l'on plaçait nos poèmes au mont de piété, et si on les laissait là en dépôt pour un seul jour, ou pour un an, ou pour un siècle, le temps de se refaire un peu, le temps de traduire son existence en lettres d'or. Traducteur autorisé des palpitations de l'âme, le poète se croit obligé de faire le beau. Sur l'esplanade des analyses, il troque sa maladresse contre d'indécentes palabres et des subtilités langagières contre une apparence trompeuse. Ainsi, toujours un peu plus, chaque jour altère la parole, comme un ciel buvard qui boirait les nuages, à peine devinés, disparus, alors que lentement nous avancerions muets pour dire l'abîme aux sans bouche. Les mots ont besoin des poètes. Ils les attendent quelque part, invisibles et muets. Ils les guettent dans l'ombre pour se jeter sur eux par tentacules et ventouses, les enlacer, les ensorceler avant de les abandonner, solitaires, à leur triste sort. Non. Rien, jamais, ne vaudra la vie, pas même le poème le plus sublime. Et ce qui changera, ce sera la façon de dire, d'écrire ou de recevoir la parole perdue comme une grâce ultime, égarée dans les galaxies. Préparez les armes de la parole. Aiguisez les couteaux de la pensée, toutes affaires cessantes, pour délivrer ou enchaîner ceux qui viendront écouter, pris dans la nasse des mots. Au revoir, se dit-on, quand c'est adieu qu'il faudrait dire, lorsque les souffles s'apaisent et que chacun s'en retourne chez soi. Recouvrir de nuit les derniers visages entrevus, juste au moment de se séparer. Et toujours torturé par la barbarie du silence et la rapacité des profiteurs, par les images qui remplacent les mots dans la mémoire des oublieux et par les sources qui tarissent, noyées sous des torrents d'images, torrents qui ne verront jamais la mer. Datées du même jour, deux lettres presque identiques de deux amis brouillés qui, après des mois de silence, m'envoient de leurs nouvelles, comme s'ils s'étaient réconciliés, avec des mots enfin accordés. Et surtout pas de mots, non, plus aucun mot à dire ou à entendre. Laissez juste le vent faire son labeur de vent. Laissez le silence éteindre son silence. Utopie chronique que de vouloir retenir des mots hésitants et fragiles après tant d'années passées à dresser de minuscules barrages contre le temps qui passe. Voilà, c'était des extraits des Quotidiennes pour dire de Georges Catalot, publié aux éditions La Porte. Et pour finir, je souhaite vous lire un extrait de Nom commun, deuxième vague, toujours de Georges Catalot, bien sûr, publié aux éditions Gros Texte. Internet. Internet. Illusoire maison ouverte à tout va. Infernale demeure, dont des milliers de personnes possèdent la clé, on y avance à tâtons. Certains cherchent les interrupteurs, d'autres les bougies, les fusibles. On y fait de curieuses rencontres. On y entend des bruits bizarres. On ne sait plus qui habite là, dans les annexes ou sous les combles. Des gens passent, se croisent sans se voir. Des gens, des individus, mais jamais des personnes. Zapping. L'œil bleu des écrans s'imprime sur la rétine et l'index sur la gâchette mitraille et commande. Bouger, changer, pour voir d'autres images, toujours plus loin, toujours plus vite, pour suivre en aveugle l'impossible programme, l'émission absolue. Changer, zapper, sauter, passer d'une chaîne à l'autre, pour s'enchaîner aux images. Scoop. Si on le cherche, on le trouve dans les bas-fonds nauséeux, dans les ordures. C'est là qu'il niche. Pour lui, que ne ferait-on pas, juché sur des arbres, caché dans des véhicules, hyènes et vautours sont prêts à bondir, être à l'affût de l'inédit, de listes rouges à révéler de secrets d'alcôve ou de polichinelle, saisir l'image inespérée pour un geste ou un sein dévoilé, une rencontre ou un baiser. Avoir la preuve irréfutable à rejeter ensuite dans l'oubli, à la poursuite d'un nouveau scoop. Audimat. Vouloir fixer, figer les yeux et les oreilles et le reste du corps et le cœur et l'esprit. Vouloir à tout prix gagner en audience. Tirer au plus profond sur la chaîne, enchaîner, tirer toujours plus bas, là où l'âme s'absente, vers le fond, le tréfonds, catacombe, d'où nul ne reviendra. Gadget. L'un poursuit l'autre, bouscule la différence et l'illusoire vanité. Lui, l'inutile, se porte en sautoir. L'apparence est sa raison d'être. Le devenir le laisse froid. À son tour, l'être gadget, dans la brassée des foules, brouille les pistes. Il décolle vers l'oubli, s'affiche un peu partout et se repent de s'afficher. Must. Le nec plus ultra, le haut du panier, ce qui va de soi, l'élite, le supérieur, la fine crème du baril, ce qui dépasse et se remarque, ce qui se prétend essentiel, ombre portée sur elle-même, agrandie par le mouvement, puis finalement oubliée, vaincue par une ombre nouvelle, Ah, le must du must, déjà digéré, englouti, pour faire place au prochain. Voilà, c'était des extraits de Nom commun deuxième vague de Georges Catalot, publié aux éditions Gros Texte. On écoute encore un peu de musique et Jacques Morin reprend le manche de cette émission pour sa revue des revues audio.
Veni, oh, 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 veni, oh.
C'était le folk amérindien, un petit échantillon du folk amérindien de Pourafé que nous adorons sur Radio Grand Ciel. Et nous aimons aussi beaucoup Jacques Mau, Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges, à qui je cède la parole.
Revue audio du mois numéro 51, cette fois-ci donc c'est Chien d'Ans, numéro 116, une revue qui est consacrée chaque fois à un poète, et cette fois-ci c'est Yves Artufel. C'est Georges Catalot qui a coordonné cette livraison consacrée à notre ami Yves Artufel. Comme souvent dans ce genre de cas précis et spécifique, il est difficile de distinguer l'éditeur du poète. En effet, Yves Artufel, ça parle en poésie comme l'éditeur de gros textes, 200 auteurs, 400 livres. Son aventure de revuiste est demeurée plus erratique avec gros textes, plusieurs séries et Lecture 44, et s'est achevée pour l'heure en 2011. Il y a donc aussi à part égale le poète, qui s'est édité lui-même pour 4 recueils, alors que c'est Paul Dare qui publiait son premier recueil en 1999, numéro 101. Et quelque part, tout est dit. Yves Artufel, qui se met au service des autres, et comment, pousse la modestie et la discrétion à ne pas solliciter lui-même d'autres éditeurs, et préfère ne déranger personne pour se publier tout seul. Les divers auteurs sollicités dans la revue, hésite souvent entre l'hommage à l'un ou à l'autre de ce Janus moderne. Une façon d'éviter le hiatus, c'est de célébrer l'homme, le bonhomme, qui n'est pas coupé en deux. Roland Nadeau fait la synthèse. Cher poète éditeur ami, Jean-Pierre Le Sieur titre son article « Yves Artufel, homme à tout faire de la poésie » et conclut, un peu plus laudateur quand même, « homme à tout faire et seigneur de la poésie de notre temps ». Christian Bulting écrit une critique élaborée de son dernier recueil « Il faut repeindre le moteur » et souligne son côté sauvagement libre. Jean-Claude Touzeil donne 3 qualités cardinales et voisines du personnage, douceur, discrétion et humilité. Ce que reprend à son compte Georges Catalot, humilité, patience et modestie. Thomas Vino offre un poème « Il est le cœur battant, saignant, puant, vivant de la poésie ». Ses plus proches insistent sur l'aspect humain, comme Dominique Houry qui écrit « Yves, c'est mon ami ». Alain Sagot en écho « Yves, mon ami ». Il conclut sa page « La création la plus authentique consiste à voguer, modestement mais sans concession, à la découverte de l'essentiel tel qu'il peut s'incarner à travers chacun de nous ». Jean-Claude Touzeil et François-Xavier Farine insistent sur l'inlassable militant de la poésie ou le militant des autres poètes. Georges Catalot a intercalé entre les hommages des auteurs gros textes des pages tirées des recueils d'Yves Artufel. Christian Bulting et Jean-Claude Touzeil donnent quelques clés sur cette poésie qu'on peut qualifier de mineure, dans le sens où, comme on l'a compris, il ne s'agit pas d'une poésie sonore, tonitruante et tapageuse, qui prendrait tout le devant de la scène, mais toute la personnalité d'Yves Artufel s'y trouve. Sa fibre libertaire sait domestiquer la vanité qui entrave plus d'un poète. On peut parler de dérision, d'humour fin. Le poète à présent monte sur son cheval à bascule. Il espère qu'il va faire chavirer le monde. On peut parler de désillusion, de désenchantement, mais jamais d'amertume. Les déceptions qui nous sont communes dans le quotidien demeurent souvent l'objet de ses réflexions et de ses écrits. Et il sait en sourire, parfois âprement, et nous en faire sourire de même, avec distance. Enfin, autre manière de ne pas se prendre au sérieux, c'est la longueur de plus en plus resserrée de ses poèmes, et une véritable prédilection pour l'aphorisme, art compliqué de la densité, qui doit faire mouche, sans concession, ni au style, ni à l'impact sémantique. Conseil valable, fais ce que tu peux. Aux dernières nouvelles, il semblerait que Dieu en soit là. Par ailleurs, Yves s'est trouvé des métaphores inattendues qu'il file de même façon. Je vais penser à me refaire l'intérieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé la tapisserie du cerveau, la moquette de l'âme, ni repeint le cœur. Cette façon de comparer deux domaines, de mélanger deux univers, peut aboutir au court-circuit créatif et hallucinant. Mon ombre sur le mur se mit à saigner. En outre, Yves Artufel est commerçant, libraire, colporteur, comédien, lecteur, etc. Artisan, militant et poète avant tout, poète à la base, poète primordial, je vais jusqu'à l'horizon pousser ma brouette de décombres. Après, on avisera. Chien dans Yves Artufel, 6 euros, au 20 rue du Coudray, 44 000 Nantes. À la prochaine fois.
Bel hommage à Yves Artufel, dont nous espérons bien décrocher une interview d'ici quelques temps. Et pourquoi pas une lecture de ce livre dont vient de parler Jacques Morin. Le haïku, vous savez qu'on aime beaucoup ces trois petits vers venus du Japon, mais qui ont essaimé un peu partout dans le monde, et c'est tant mieux. Notre monsieur haïku de la route inconnue, c'est Jean Antonini, qui est le responsable de publication de la revue Gong, revue du haïku francophone. Je lui cède à présent la parole.
Poursuivons la lecture de quelques hoku de Kobayashi Issa. J'ai choisi cette fois des poèmes qui mettent en scène Issa lui-même dans sa vie. Cet aspect autobiographique est une nouveauté à l'époque dans le haïku japonais. Edo jo ya hoya no hoka emo kinu kubari. Dans un paquet d'Edo, vêtements neufs, et je ne suis pas son père. Issa reçoit un paquet. Il a beaucoup voyagé durant une vie très pauvre. Recevoir des habits neufs, c'est une joie. Quant à l'évocation de père, on pense au résultat d'une recherche de paternité, bien que ce soit impossible à l'époque. Mais le jeu du temps peut ainsi créer un autre sens à un poème et une approche étrange. Sans compter qu'Issa s'est marié trois fois dans sa vie. Un autre hoku met en scène l'humour métaphysique d'Issa et son attention aux animaux. Hito hitori hae no hitotsu i ozashiki. Un homme et une mouche, grand salon. L'intérêt de ce poème est d'abord l'humour de situation. Deux êtres dans une grande pièce, l'un très gros, l'autre très petit. Ensuite, cette situation conduit à diminuer l'orgueil humain en plaçant celui-ci au niveau d'une mouche. Peut-être peut-on imaginer que la mouche agace l'homme en virevoltant et en se posant sur lui. Dans un fragment des pensées, Blaise Pascal évoque de façon plus discursive qu'Issa la puissance des mouches. Elle gagne des batailles, empêche notre âme d'agir, mange notre corps. Et à présent, deux attitudes d'Issa devant la nature, le soir et la nuit. Megetsu ya nenagara ogamu tetaraka. Lune d'automne, je te vénère allongé, fidèle à ma paresse. Nakanaka ni hito to umarete akinokure. Étant humain, Je peux ressentir cela, crépuscule d'automne. Ce sont deux poèmes d'automne. La pleine lune en automne est basse sur l'horizon et paraît beaucoup plus grosse qu'en d'autres saisons. C'est un plaisir pour les poètes japonais d'aller la contempler et de dire des poèmes. Issa rend ici, par la même occasion, hommage à sa paresse. La paresse est un sentiment prôné par le taoïsme. Il s'agit de ne pas agir, de suivre modestement le cours du monde et le cours du temps, comme la lune. Quant au second poème, il évoque le fait qu'un être humain peut ressentir de la tristesse au crépuscule d'automne, alors que les jours raccourcissent, ce qui n'est sans doute pas le cas d'autres êtres vivants. Pour finir, avec cette tristesse souvent compagne d'Issa, lisons ce passage de Horagaharu, mon année de printemps. C'est une leçon de ce monde éphémère qu'à la suite d'une grande joie vienne un chagrin. Notre enfant chéri qui, tel un jeune pin destiné à vivre 1000 ans, n'avait pas encore connu la moitié du bonheur et qui s'était épanoui dans le rire comme les deux premières feuilles naissent sur ce pin, fut envoûté par le démon de la terrible variole, comme une goutte d'eau tombe dans l'oreille d'un dormeur. Maintenant, couverte de boutons purulents, semblable à une jeune fleur timidement éclose, brisée par la pluie et la boue, elle était la souffrance même pour ceux qui la regardaient. Après 2 ou 3 jours, cependant, la maladie devint sèche et, ainsi que s'effondre la terre à la fonte des neiges, des sortes de croûtes se détachaient. Pour fêter cela, sur un couvercle de paille, nous avons mis des feuilles de bambou arrosées d'eau bouillante pour chasser le démon. Mais en vain, elle s'affaiblissait de plus en plus. Notre espoir s'amenuisait de jour en jour et finalement elle s'éteignit avec les liserons et le 21e jour du 6e mois. Sa mère embrassait son petit corps froid et sanglotait éperdument. Dès lors, comme l'eau qui coule ne revient, ni les fleurs tombées ne remontent sur leurs branches, bien que je me montre résigné, il m'est difficile de ne plus songer à ce lien d'amour. Ce monde éphémère est un monde éphémère, et pourtant.
Un grand merci à Jean Antonini pour cette incursion dans l'univers prodigieux de Kobayashi Issa, grand maître du haïku du 19e siècle. Voilà, cette émission va se terminer, mais elle ne va pas se terminer sans Jean-Claude Touzeil. Jean-Claude Touzeil qui va nous parler de la mort de Jean-Hugues Malinaud. Et nous allons ensuite dire 2 mots du Printemps de Durcé, manifestation poétique annuelle qui se déroule à l'initiative de Jean-Claude Touzeil depuis de très nombreuses années à Durcé dans l'Orne. Mais tout d'abord, cet hommage à Jean-Hugues Malinaud.
Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler un peu de Jean-Hugues Malinaud qui vient de nous quitter le 9 mars. C'était un poète, mais aussi un enseignant de la poésie, aussi bien en collège qu'en université. C'était aussi un typographe, un éditeur et un bibliophile, spécialiste du livre pour enfants. Il est venu plusieurs fois chez nous à Durcé. Et c'est lui l'auteur de plus de 100 livres de poésie, soit sous la forme de poésie personnelle ou encore d'anthologie chez Rue du Monde, Albin, Michel, Milan, etc. Toutes les grandes maisons d'édition. Alors je vous ai sélectionné 3 ou 4 poèmes pour lui rendre hommage. Le ragondin. Le ragondin ragondait les gondes des 1001 gouttes. Aux grenouilles qui égouttaient, captivaient en gazant la croûte. Nombris des mondes, écoute la chanson de la rivière sur les cailloux. Une main dans l'eau qui va, une main dans l'herbe, un œil dans les nuages, un pied sur terre, un pied contre l'écorce d'un jeune saule, une épaule dans le soleil, et, dans un coude de la rivière, une oreille au pinson, une oreille au murmure de l'eau, une narine dans la menthe fraîche, les reins dans la mousse, je suis le nombril des mondes. Cet extrait de Mémoire de petit garçon. Et Jean-Hugues a écrit aussi beaucoup de haïkus, je vais vous en lire 3 ou 4. Crépuscule d'automne, plus une feuille ne bouge, sauf un rouge-gorge. Aucune chanterelle, mais une coccinelle sur l'épaule au sortir du bois. Au dos de l'index, caresser le cou tendu d'un chaton qui ronronne. Les moineaux dans une flaque, elle n'en peut plus de rire, la petite fille. Et puis, un haïku inédit, Jean-Hugues avait l'habitude de nous envoyer au moment des vœux un petit livre avec des haïkus. Ce petit chemin d'enfance, il ouvrira toujours la vie devant moi. Voilà.
Eh bien voilà de très jolis, très très jolis haïkus, Jean-Claude. On va pas se quitter. On va quand même pas se quitter avant d'avoir parlé du printemps de Durset. C'est le 8 et le 9 avril prochain, si je ne m'abuse. Oui. Et ce printemps de Durset, et on va rappeler à nos auditeurs ce que c'est un événement important dans l'année poétique française. Durset, ça se trouve en Normandie, c'est un tout petit village, mais c'est un village labellisé village en poésie.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer le 8 et le 9 avril prochain, Jean-Claude ?
Alors, on va ajouter le 7, parce que le 7, c'est le vendredi, les poètes, certains poètes vont rencontrer des élèves, des scolaires, dans les écoles des environs, écoles et collèges. Le 8, ce sera la marche et des lectures le long du chemin des poètes. Alors, quelques noms... Gilles Cheval des éditions Mazette, Gérard Cousin, Jean-François Forestier, je vais dire etc., Jean-Louis Rambourg, Mylène Joubert, et puis aussi un hommage à quelques classiques, on va dire, surtout que c'est le thème du printemps des poètes, c'est l'Afrique, donc on aura aimé un poème d'Aimé Césaire, un autre de Senghor, Boris Vian, etc. Et un hommage tout particulier à Jean-Pierre Ronet, qui avait créé une émission à la radio et la télévision sur la poésie, à travers sa fille Sabine, qui sera avec nous. Le dimanche 9, ce sera le petit salon du livre de poésie. Je n'oublie pas le dimanche matin pour les courageux, un atelier d'écriture animé par Lydia Padelec autour du haïku. Les poètes qui seront là, bon, seront ceux que j'ai nommés tout à l'heure pour le chemin, mais aussi nos piliers, on pourrait dire, des gens qui reviennent chaque année, comme Yves Barret, Don Boucherie, je vais pas citer tout le monde, mais tant pis, Françoise Coulemin, Jean-Albert Guénégan, Michel Lautru, Roland Nadeau, etc., etc.
Eh bien, donc, rendez-vous le 8 et le 9 avril prochain. Je rappelle quand même à nos auditeurs qui ne connaissent pas que ce chemin, vous avez parlé d'un chemin tout à l'heure, c'est donc un itinéraire à travers la campagne normande avec des stations, en fait, des petites stèles sur lesquelles se trouvent des poèmes et qui, pendant un an, ces poèmes sont exposés le long de la promenade, finalement. Donc, toute l'année, on peut emprunter ce chemin des poètes et lire les poèmes.
Absolument, les poèmes sont là à demeure, quoi, pour l'année. On en change une fois par an. Et les promeneurs, les randonneurs ont la surprise de découvrir en pleine nature, comme ça, tout d'un coup, un poème.
Alors, Courez, Courez à Durcé, c'est pas très loin de Flers, c'est dans l'Orne, et c'est un très joli coin. Merci Jean-Claude, et à très bientôt.
À bientôt, merci.
Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine édition de La Route Inconnue. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à notre écoute. Les programmes d'RGC se poursuivent pour votre plus grand plaisir. Nous l'espérons tous.
So far, I just can't see. You're so far.